Si vous avez grandi dans un pays occidental, vous avez sans doute entendu parler de la fable du lièvre et de la tortue. Je sais que, enfant, je l'aimais beaucoup. Je ne sais pas si c'est un conte connu dans le monde entier, mais c'est l'histoire d'une tortue qui avance avec assiduité dans une course, tandis qu'un lièvre, comptant sur sa vitesse, fait sans cesse des pauses et se la coule douce pendant la course. Au final, comme le dit le proverbe, c'est la tortue, lente mais régulière, qui remporte la course. Et cela m'intriguait quand j'étais enfant, car cela n'avait aucun sens. Et en grandissant, j'ai compris que cela n'avait vraiment aucun sens. Les tortues ne font pas la course contre les lièvres. On ne verra jamais cela. Et si une tortue devait courir contre un lièvre, ce serait sans aucun doute le lièvre qui gagnerait. Je le sais en partie parce que j'ai eu des lapins et des tortues comme animaux de compagnie, et que les lapins étaient bien plus rapides que les tortues. J'ai aussi chassé des lapins. Ils sont incroyablement rapides. Mais j'ai fait courir des tortues. Les courses de tortues, cela existe. C'est juste qu'elles ne font pas la course contre des lapins. Elles courent entre elles. J'avais trois tortues. Lacey, Speedy et Shirley, voilà mes tortues. Et je les faisais régulièrement courir. Et, ironiquement, Speedy n'avait que trois pattes, mais c'était pourtant lui qui gagnait. Je suppose que la détermination et le courage dont il faisait preuve pour surmonter ce handicap faisaient de lui, Speedy, un véritable bolide. Bon, cela peut paraître bizarre, des tortues qui font la course, mais en réalité, les tortues courent dans la nature. Elles courent vraiment dans la nature. C'est un phénomène naturel, croyez-le ou non. Et cela se produit lorsque les bébés tortues de mer éclosent sur le rivage. J'ai ici un article généré par l'IA. C'est incroyable de voir comment ces systèmes parviennent à rassembler et à assembler des informations provenant de diverses sources. Mais ce récit général sur les courses de tortues nous met en situation pour ce dont nous allons parler. Les bébés tortues marines se précipitent vers l'océan dès leur éclosion, car il s'agit d'un instinct de survie affiné au fil de millions d'années. Bon, on sait que ce n'est pas exactement des millions d'années, mais c'est bel et bien un instinct de survie, on verra bien. En émergeant de leur nid de sable, elles doivent faire face aux prédateurs, à la chaleur et à la déshydratation. Le chemin le plus rapide vers la sécurité est le large. Les nouveau-nés sont attirés par l'horizon le plus lumineux et le plus vaste, généralement l'océan éclairé par la lune ou les étoiles. Ils utilisent des repères visuels pour s'orienter, et certaines données suggèrent qu'ils détectent également les champs magnétiques subtils de leur lieu de naissance. Cela les aide à mémoriser l'emplacement de leur plage, où ils pourraient revenir des années plus tard. C'est incroyable de voir comment Dieu a conçu ces créatures. La plupart éclosent la nuit pour éviter la chaleur diurne et les prédateurs. Le reflet de la lune sur l'eau leur sert de guide fiable, mais les lumières artificielles des hôtels, des rues et des parkings peuvent les induire en erreur, les conduisant vers l'intérieur des terres où elles risquent d'être écrasées ou dévorées. L'enjeu de ce périple est de taille. Des prédateurs tels que les crabes fantômes, les mouettes et les ratons laveurs rôdent sur la plage. Ils attendent ces tortues. Et le sable peut être brûlant et provoquer la déshydratation. Seule une infime partie d'entre elles survit jusqu'à l'âge adulte. Environ une sur mille y parviendra. Elles doivent être rapides, selon les critères des tortues. Pour protéger les nouveau-nés, de nombreuses communes côtières ont modifié leur éclairage afin de ne pas désorienter ces tortues. Cette première course n'est pas seulement un sprint. C'est le début d'une vie qui peut s'étendre sur des décennies, les nouveau-nés migrant plus tard sur des milliers de miles à travers les océans. Protéger ce moment est essentiel pour la survie des populations de tortues marines dans le monde entier. À leur éveil, elles savent instinctivement qu'elles doivent courir vers l'horizon. Elles savent qu'elles doivent courir vers l'eau. Personne ne leur a appris cela. Leurs parents ne restent pas assis sur la plage pour leur donner des instructions. Une sur mille d'entre vous ne survivra. Vous devez courir vers l'eau. Il n'y a pas de conversation à ce sujet. Elles éclosent simplement et savent qu'elles doivent sprinter vers l'eau. C'est ainsi que Dieu les a conçues. Or, les êtres humains sont, comme nous le savons, fondamentalement différents. À notre naissance, nous ne savons rien. Absolument rien. Nous avons un nouveau-né parmi l'assemblée, et quand on la regarde, elle est magnifique. On voit bien qu'il se passe quelque chose dans sa tête, mais pas grand-chose en termes de cognition. Pas grand-chose en termes de compréhension de ce qui se passe. Pas grand-chose au-delà de savoir qu'elle a faim, soif ou envie de faire une sieste. Les humains sont très différents. Ils ne savent pas ces choses-là. Ces questions de vie ou de mort, comme le ferait une tortue sur une plage. Pourtant, les biologistes pensent avoir la réponse. Ce n'est pas que Dieu nous ait conçus pour apprendre. C'est plutôt une bizarrerie de l'évolution. C'est ainsi que les scientifiques expliquent notre différence par rapport, disons, à une tortue ou à n'importe quel autre animal. Poursuivons avec une mise en contexte un peu plus longue. Pourquoi, comparé à la plupart des autres animaux, on nous qualifie d'animaux les bébés humains semblent-ils si étonnamment démunis? C'est la question que pose l'auteur. Le titre de l'article, qui provient, je crois, de Forbes, est « Un biologiste explique pourquoi les bébés humains naissent si démunis ». Indice, l'évolution a opéré un compromis stratégique. Un poulain peut se tenir debout en quelques heures, et un bébé chimpanzé peut s'agripper fermement à la fourrure de sa mère presque immédiatement. Les bébés humains, en revanche, ne peuvent pratiquement rien faire par eux-mêmes. C'est complètement différent de toute autre forme de vie. Ils ne peuvent pas soutenir leur propre tête, réguler efficacement leur température corporelle ni se déplacer de manière autonome pendant de nombreux mois. Depuis des décennies, les biologistes évolutionnistes mettent en avant une explication centrale connue sous le nom de dilemme obstétrique. Le dilemme obstétrique. Dans l'ensemble, cela suggère que les humains sont confrontés à un compromis évolutif unique. Nous avons développé de gros cerveaux. Ce n'est pas Dieu qui nous a donné de gros cerveaux. Nous avons développé de gros cerveaux, qui nécessitent de grosses têtes, tout en développant simultanément des bassins étroits. Leur théorie est donc la suivante, au fur et à mesure de notre évolution, nous sommes devenus plus intelligents, notre cerveau s'est donc développé, notre tête est donc grossie, mais le changement du mode de vie au fil des siècles et des millénaires a conduit à un rétrécissement des hanches. Cette tête ne pouvait donc plus sortir de l'utérus une fois complètement développée. Ce qu'il postule donc, sans entrer dans les détails du reste de l'article, c'est que les bébés naissent extrêmement prématurés, et qu'ils ne savent donc rien. En gros, s'ils avaient pu se développer jusqu'à maturité dans l'utérus, au point d'être comme des tortues et de savoir quoi faire, ils n'auraient pas pu passer par le canal génital et venir au monde. C'est insensé, mais c'est ce que croient les évolutionnistes. Or, nous savons qu'il en va autrement, mes frères et sœurs. Dieu a voulu que nous dépendions de nos parents dès le début, dès le ventre de notre mère. Ouvrez votre Bible à 1 Pierre 2. Dieu a voulu que nous apprenions dès le premier instant. Il ne nous a pas donné les mêmes instincts que ceux qu'il a insufflés aux animaux. Il veut que nous apprenions dès le tout début. 1 Pierre 2, verset 1. Les nouveau-nés sont son défense. Cette magnifique petite fille dont j'ai parlé tout à l'heure, elle est sans défense. On lit dans l'actualité ces histoires tragiques de parents qui négligent leur nouveau-né ou les oublient dans une autre pièce. Peut-être que la drogue ou l'alcool était en cause. Et il y a peu de choses plus déchirantes, plus horribles, plus attristantes que de penser à une vie sans défense. Elle n'a personne pour prendre soin d'elle. Une pierre deux, verset une, c'est pourquoi, rejetant toute malice, toute ruse, toute hypocrisie, toute envie et toute médisance, comme des nouveau-nés, désirez, c'est-à-dire aspirez ardemment, le lait pur de la parole, afin que par lui vous grandissiez, si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon. Tout comme un nouveau-né grandit, nous grandissons nous aussi. Nous grandissons. Il nous a créés pour apprendre et compare ce lait que boit un nouveau-né au lait de la parole grâce auquel nous grandissons, grâce auquel nous changeons. Même l'enfant le plus doué qui ait jamais vu le jour était sans défense dans sa petite enfance. Soulignons ce point de la manière la plus frappante possible. Ouvrez votre Bible au chapitre 2 de Matthieu. Dieu nous a créés sans défense. Il nous a créés pour que nous dépendions de nos enseignants. Il nous a créés pour être instruits. Il nous a créés pour apprendre. Même l'être le plus doué qui ait jamais foulé cette terre était sans défense dans sa petite enfance. Matthieu, chapitre 2. Or, lorsque Jésus naquit à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant, « Où est celui qui est né roi des Juifs ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. » Lorsque le roi Hérode eut entendu ces choses, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il savait que cela constituait une menace pour son pouvoir. Et, ayant réuni tous les grands prêtres et les scribes du peuple, il leur demanda où Christ devait naître. Et ils lui dirent, « À Bethléem en Judée, car ainsi il est écrit par le prophète, et toi, Bethléem, dans le pays de Juda, tu n'es pas la moindre parmi les principautés de Juda. Car de toi sortira un chef qui pètera mon peuple Israël. » Il allait devoir mûrir et évoluer jusqu'à ce point, grandir jusqu'à ce point, évoluer n'est pas le bon mot dans ce contexte. Je ne l'entends pas dans ce sens. Mais en fin de compte, un chef qui régnera sur mon peuple d'Israël. Alors Hérode, après avoir convoqué en secret les mages, les interrogea avec soin sur le moment où l'étoile était apparue. Et il les envoya à Bethléem en leur disant, « Allez et cherchez avec soin l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Or, de toute évidence, il avait un autre plan. Nous verrons bien. Après avoir entendu le roi, ils se mirent en route. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'elle vînt s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Lorsqu'ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une joie immense. Et, entrés dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent pour l'adorer. Puis, ayant ouvert leur coffre, ils lui offrirent des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et, avertis par Dieu en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils s'en allèrent dans leur pays par un autre chemin. Et après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparut à Joseph en songe, lui disant, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. » Christ, évidemment, était un être divin depuis toute éternité. Pourtant, lorsqu'il se présentait sous cette forme d'enfant, sous cette forme de nourrisson, il était totalement sans défense. Il ne savait pas qu'un complot se tramait pour lui ôter la vie. Il était comme n'importe quel autre enfant. Il devait grandir et apprendre et, j'en suis sûr, finir par se souvenir de ce que c'était que d'être un être divin. Il en a parlé au cours de son ministère. Mais à ce moment-là, Il n'était qu'un enfant sans défense. Un bébé ayant besoin de l'aide de ses parents terrestres, mais aussi de son Père céleste. Et restez là-bas jusqu'à ce que je vous donne des nouvelles, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Et quand il se leva, il prit le petit enfant et sa mère pendant la nuit, et il partit en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le Seigneur par l'intermédiaire des prophètes, qui disent « C'est de l'Égypte que j'ai appelé mon fils ». Et pour conclure ce récit dans le cadre de notre sujet, verset 16, « Alors Hérode, voyant qu'il avait été berné par les mages, se mit dans une grande colère. Il envoya faire tuer tous les enfants qui étaient à Bethléem, tous ceux qui ne pouvaient pas se défendre, tous ceux dont les parents n'avaient pas été avertis en rêve. Et dans tout son territoire, tous ceux âgés de 2 ans et moins, selon la période qu'il avait soigneusement déterminée en consultant les sages. Il massacra tous ces bébés qui ne savaient rien, qui étaient sans défense. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète, à Rama, on entendit une voix, des lamentations, des pleurs et un grand deuil, c'est Rachel qui pleure ses enfants, et elle refuse d'être consolée, car ils ne sont plus. Christ, comme n'importe quel autre enfant, était sans défense à ce moment-là. Il ne savait rien. Il n'avait rien appris. Ce qui est arrivé à ses enfants lui serait arrivé s'il n'avait pas eu de parents pour le guider, l'aider, le protéger et, en fin de compte, lui enseigner. Les êtres humains doivent être éduqués. Ils sont fondamentalement différents des animaux. Les êtres humains doivent être éduqués. Nous sommes faits pour apprendre. Et la seule fois où nous avons réellement l'image d'un adulte qui ne sait rien, qui ne savait rien et qui a dû être instruit, c'est dans le jardin d'Éden. Ouvrez votre Bible au livre de la Genèse, chapitre 1. Nous parlons aujourd'hui du processus d'apprentissage dans son sens le plus simple. Qu'est-ce qui nous distingue des animaux? Qu'est-ce qui nous permet d'aspirer à la vie éternelle? L'apprentissage. Les êtres humains doivent être éduqués. Genèse, chapitre 1. Genèse, chapitre 1, verset 26. Reprenons le récit à cet endroit. La connaissance devait être transmise à ces premiers êtres humains. Genèse 1, 26 et Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, nous comprenons le potentiel humain ultime, l'incroyable potentiel de l'homme, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Ainsi, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, et remplissez la terre. Mettez au monde ces petits bébés qui, à terme, apprendront de vous à la soumettre et à exercer leur domination sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la graine, comme tout bon parent, Dieu commence pour ainsi dire à instruire ses nouveau-nés. Nouveau-nés mentalement, nouveau-nés spirituellement, non pas physiquement, mais ce qui se rapproche le plus d'un nouveau-né physique doté des capacités cognitives que vous et moi possédons. » Il a commencé à leur enseigner. Il voulait qu'ils apprennent par ce qu'il les avait créés à son image. Il voulait qu'ils fassent partie, en fin de compte, comme nous le comprenons, de sa famille. Voici, je vous donne toute herbe portant de la graine qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre dont le fruit porte de la graine. Cela vous servira de nourriture, ainsi qu'à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel et à tout ce qui rampe sur la terre et qui a vie. Je vous donne toute herbe pour nourriture. » Et il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Dieu a dû dire à ses nouveau-nés ce qu'ils pouvaient et ne pouvaient pas manger. Tout comme les bébés qui, après avoir bu le lait maternel, doivent se faire dire « Tu peux manger ceci, tu ne peux pas manger cela. » Cette petite voiture ne sera pas aussi bonne que le brocoli dans ton assiette, pour ainsi dire. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le sixième jour. Chapitre 2, verset 7. Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Et le Seigneur Dieu planta un jardin à l'est d'Éden, et c'est là qu'il plaça l'homme qu'il avait formé. Et le Seigneur Dieu fit pousser du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger. Il y avait aussi, au milieu du jardin, l'arbre de vie, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et voici la première grande leçon que ce père voulait transmettre à ses enfants. Une leçon qui reste tout à fait d'actualité, aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'a toujours été. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il donna cet ordre à l'homme, « Tu peux manger librement de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Il leur a enseigné très clairement, leur a exposé ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils ne pouvaient pas faire, ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils ne devaient pas faire. Et les conséquences de leur désobéissance. Mais Dieu n'était pas le seul être à comprendre que les humains étaient faits pour apprendre. Que nous sommes faits pour recevoir des informations et agir en fonction de ces informations. Il y avait un autre être qui comprenait cela tout aussi bien et qui en a tiré parti. Chapitre 3. Or, le serpent était plus rusé que tous les animaux des champs. Si l'on examine l'ensemble de ce récit de la création, on constate qu'il s'articule autour du thème de l'apprentissage. De qui l'on apprend, à qui l'on prête attention. Si l'on agit en fonction des bonnes informations qui nous sont enseignées ou des mauvaises. Le serpent était plus rusé que tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait créés. Et il dit à la femme, « C'est vrai, comme Dieu l'a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Et la femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas. Vous n'y toucherez pas non plus, de peur que vous ne mouriez. » Nous l'avons appris très récemment. Nous n'avons pas le droit de manger de cet arbre. Nos parents nous ont enseigné, « Ne mangez pas de cet arbre. » Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas. Vous n'y toucherez pas non plus, de peur que vous ne mouriez. » Exact. Et le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez certainement pas. » Il lui donna une version différente. « Car Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et lorsque la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et désirable pour acquérir la sagesse, elle prit de son fruit, en mangea, et en donna à son mari, qui en mangea aussi. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles ensemble et se firent des pagnes. Ils ont appris. Ils ont appris. Absolument. Ils ont appris d'une mauvaise source, ce qui introduit un autre aspect de l'apprentissage, un aspect crucial dont nous parlons ici aujourd'hui. Et c'est que le mal s'apprend. Nous choisissons ce que nous apprenons, y compris le mal. Cela n'arrive pas par hasard. L'Ecclésiaste, chapitre 7. L'Ecclésiaste, chapitre 7. Il n'y avait rien de mauvais chez Adam ou Ève lorsque Dieu les a créés. Il les a créés parfaits. Il les a créés à son image et à sa ressemblance. Ils étaient en parfaite santé. Ils n'avaient pas pris de mauvaises décisions. Ils n'avaient pas commis d'erreur. On leur avait simplement enseigné. Et ensuite, ils ont eu le choix. L'Ecclésiaste, chapitre 7. Salomon a écrit, voici, ceci, verset 29. Ecclésiaste 7, 29. Voici, ceci seulement, je l'ai trouvé, Dieu a fait l'homme droit, mais ils ont cherché beaucoup d'inventions. L'homme commence par être bon. Il ne commence pas par être mauvais. Il adopte très rapidement la nature humaine, que nous comprenons comme étant la nature de Satan, mais il commence par être bon. Ils inventent bien des choses à travers ce qu'ils apprennent. Jérémie, chapitre 10. Jérémie 10. Revenons au proverbe dans un instant, puis restons un peu dans Jérémie après cela. Mais Jérémie, chapitre 10. Nous apprenons. Et ce que nous apprenons définit ce que nous devenons. C'est vraiment aussi simple que cela. Je sais que cela semble extrêmement élémentaire, mais c'est extrêmement élémentaire. Tout le récit de la Genèse a été conçu pour être élémentaire. Écoute-moi, a dit Dieu. Le serpent a dit, non, 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 écoute-moi. Et puis il y a eu un choix. Le même choix auquel vous et moi, mes frères, sommes confrontés aujourd'hui, jour après jour. Dieu dit, écoutez-moi. Satan dit, non, 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 écoutez-moi. Les pulsions de notre chair disent, non, 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 écoute-moi. Tu profiteras davantage de la vie. La société dit, non, 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 n'écoute pas Dieu, écoute-moi. C'est la même pièce, si l'on peut la qualifier ainsi, qui se joue jour après jour. Le même choix fondamental entre le bien et le mal qui se répète jour après jour. Jérémie, chapitre 10. Écoutez la parole du Seigneur qui vous est adressée, aux maisons d'Israël. Ainsi parle le Seigneur, n'apprenez pas la voix des nations, et ne vous effrayez pas devant les signes du ciel, car les nations s'en effraient. Car les coutumes des peuples sont vaines. Faites attention à ceux dont vous vous inspirez, dit Dieu. Faites attention aux leçons que vous tirez de ceux qui vous entourent, dit Dieu. Or, beaucoup d'entre nous apprennent ces choses, le sapin de Noël est ici mis en avant, par ignorance, quand nous étions enfants. Nos parents les ont apprises par ignorance. Mais n'apprenez pas la voix des païens, verset 3, car les coutumes des peuples sont vaines. Car on abat un arbre dans la forêt, œuvre des mains de l'artisan, à la hache. On le pare d'argent et d'or. On le fixe avec des clous et des marteaux, afin qu'il ne bouge pas. Vous savez, ils le dressent dans leur salon. Ils se dressent comme le palmier, mais ils ne parlent pas. Il faut les porter. Ce ne sont pas des dieux. Ce ne sont que des arbres vénérés à tort parce qu'ils ne peuvent pas bouger. N'ayez pas peur d'eux, car ils ne peuvent pas faire de mal. Heureusement, la société moderne s'est débarrassée de cet aspect de la célébration de Noël. On ne voit plus beaucoup de gens, vous savez, recroquevillés dans un coin de leur salon parce qu'ils craignent leur sapin de Noël. Mais c'était comme cela autrefois. Pourtant, nous avons toujours des sapins de Noël dans nos foyers à travers le monde occidental. Nous, au sens large, à l'église, bien sûr, nous n'en avons pas. N'ayez pas peur d'eux, car ils ne peuvent pas faire de mal. Il n'est pas non plus en leur pouvoir de faire le bien. Proverbe 22. Proverbe 22. Nous apprenons de ceux qui nous entourent. Et nous devons faire attention à ceux dont nous nous inspirons. Il ne s'agit pas seulement de coutume, comme c'est le cas ici dans Jérémie. Il ne s'agit pas seulement de savoir quoi faire, comment adorer Dieu ou comment vivre. Mais nous apprenons par osmose, pour ainsi dire, les attitudes de diverses personnes. Ce sont peut-être des collègues. Ce sont peut-être des parents. Ce sont peut-être des frères et sœurs. Nous devons faire attention à ce que nous apprenons, à ce que nous absorbons, simplement par notre proximité avec les autres. Proverbe 22. Dieu nous met en garde par ce qu'il comprend comment fonctionne le processus d'apprentissage. C'est lui qui l'a conçu. Proverbe 22, 24. Ne te lie pas d'amitié avec un homme colérique, et ne t'associe pas à un homme fougueux. Pourquoi? Non pas parce qu'il se mettra en colère contre toi. Personne ne voudrait cela. Non pas parce qu'il se mettrait en colère contre moi. Ce serait déjà grave en soi. Mais le véritable danger est évoqué au verset 25. De peur que tu n'apprennes ses voies, et que cela ne devienne un piège pour ton âme. Ici, c'est la colère qui est mise en avant, mais cela pourrait être n'importe quelle attitude que nous savons être mauvaise. Si nous nous entourons de ce genre de personnes, si nous ne prenons pas nos distances par rapport à celles qui ont habituellement une mauvaise attitude ou une attitude erronée, si nous ne prenons pas de mesures pour y remédier, Dieu dit que nous deviendrons comme cette personne. Nous apprendrons leur voie et nous tendrons un piège à notre âme. Nous apprendrons les mauvaises choses en fréquentant les mauvaises personnes. Tout comme Adam et Ève ont appris les mauvaises choses en fréquentant le mauvais être. Revenons à Jérémie. Cette fois-ci, au chapitre 9. Nous en étions au chapitre 10, où nous parlions des coutumes des païens. Mais revenons au chapitre 9 de Jérémie. Vous voyez ici une image de Dieu profondément bouleversée par ce qu'il voit. Tout simplement bouleversée. Et la raison de son bouleversement est précisément liée à ce dont nous parlons aujourd'hui. Oh! Si ma tête était des eaux, et mes yeux une source de larmes, des larmes coulantes à flots sur son visage. Afin que je pleure jour et nuit sur les victimes de la fille de mon peuple. Oh! Si j'avais dans le désert un lieu de repos pour les voyageurs, je quitterais mon peuple et m'éloignerais d'eux. Car ils sont tous adultères, une assemblée d'hommes perfides. Ils tendent leur langue comme un arc pour le mensonge, mais ils ne sont pas vaillants pour la vérité sur la terre. Car ils passent du mal au mal, et ils ne me connaissent pas, dit le Seigneur. Ils ne me connaissent pas. Leur attitude, leurs paroles, tout dans leur façon de vivre suggère qu'ils ne me connaissent pas. Que chacun se méfie de son prochain, et ne se fie à aucun frère, car tout frère cherchera à supplanter son prochain, et tout voisin marchera dans la calomnie. Et chacun trompera son prochain, et ne dira pas la vérité. Ils ont appris à leur langue à proférer des mensonges, et s'épuisent à commettre l'iniquité. Ce que nous apprenons ne nous arrive pas par hasard. Nous avons le choix. Ce n'est pas par hasard que nous croyons ce que nous croyons. Ce n'est pas par hasard que nous sommes tels que nous sommes. Cela devrait être une source de grande force. Les gens s'enseignent eux-mêmes toutes sortes de choses. Ce groupe s'enseigne à lui-même. Ils ont appris à leur langue à proférer des mensonges. Nous, frères et sœurs, sommes différents. Nous apprenons à notre langue à dire la vérité. Nous avons le contrôle sur ce qui entre dans notre esprit. Nous contrôlons avec qui nous passons notre temps. Bien sûr, s'il s'agit de collègues de travail, et c'est la tâche que Dieu nous a confiée, il existe d'autres moyens de gérer ces situations. Mais les personnes avec lesquelles nous choisissons de passer notre temps, ce que nous choisissons de mettre dans notre esprit, cela fait toute la différence. Car cela s'enracine en nous et devient une habitude. Jérémie chapitre 13 parle de l'habitude. Comment l'apprentissage engendre l'habitude. Jérémie chapitre 13. Quelques pages plus loin. Verset 15. Écoutez, prêtez l'oreille, ne soyez pas orgueilleux, car l'Éternel a parlé. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il ne fasse venir les ténèbres, et avant que vos pieds ne trébuchent sur les montagnes obscures, et, tandis que vous chercherez la lumière, qu'il ne la transforme en ombre de mort, et ne la change en ténèbres épaisses. En d'autres termes, cherchez Dieu tant que vous le pouvez. Mais si vous ne voulez pas l'écouter, mon âme pleurera en secret à cause de votre orgueil. Une fois encore, Dieu est profondément attristé par les choix que font les hommes. J'imagine qu'il a été profondément attristé par le choix qu'ont fait les deux premiers êtres humains qu'il n'ait jamais créés. Profondément attristé. Et mes yeux verseront des larmes abondantes, car le troupeau du Seigneur est emmené en captivité. Dites au roi et à la reine, humiliez-vous, asseyez-vous, car vos principautés tomberont, ainsi que la couronne de votre gloire. Les villes du sud seront fermées, et personne ne les ouvrira. Juda sera emmené en captivité dans son ensemble. Il sera entièrement emmené en captivité. Levez les yeux, et regardez ceux qui viennent du nord, où est le troupeau qui vous avait été donné, votre beau troupeau. Que direz-vous quand il vous punira? Car vous leur avez appris à être des chefs et des dirigeants au-dessus de vous. Les douleurs ne t'assailliront-elles pas comme une femme en travail? Et si tu dis dans ton cœur, pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Les gens se poseront cette question au cours d'un châtiment sévère, quelle que soit la place qu'ils occupent dans le plan de Dieu. Les gens diront dans leur cœur, pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Dieu répond, c'est à cause de la grandeur de ton iniquité que tes jupes sont découvertes et que tes talons sont mis à nu. Et voici la clé. Voici ce qu'apporte une vie d'apprentissage, d'une manière ou d'une autre. Une vie de choix concernant ce que nous apprenons aboutit à ce qui suit, que ce soit en bien ou en mal. L'Éthiopien peut-il changer sa peau, ou le léopard ses taches? Alors vous aussi, vous qui êtes habitué à faire le mal, vous pourrez faire le bien. En d'autres termes, cela devient tellement ancré en vous, pour parler de manière impersonnelle, cela devient tellement ancré chez une personne de faire le mal, qu'il est très difficile de changer. Et franchement, cela fonctionne aussi dans l'autre sens. Une vie entière de conversion aidée, une vie entière passée à faire ce qui est juste, rend très difficile le retour au mal. C'est ainsi que Dieu nous a conçus. Ce que nous apprenons et ce à quoi nous nous entraînons au fil du temps reste ancré en nous. Cela devient nos tâches permanentes, nos rayures permanentes, pour ainsi dire, et finalement nos rayures définitives pour l'éternité. Qu'une personne refuse simplement de faire le bien et perde la vie, qu'elle périsse pour toujours, ce qui est triste à voir, mais c'est un choix que feront un grand nombre ou qu'elles choisissent la vie, choisissent le bien, choisissent d'apprendre de bonnes choses, ces marques, c'est très distinctif de ce qu'elle est, dureront pour toujours. C'est incroyable, la façon dont Dieu a conçu notre esprit, la façon dont nous apprenons, la façon dont nous assimilons les informations, et la façon dont cela nous transforme. C'est pourquoi je les disperserai comme la paille emportée par le vent du désert. Tel est ton sort, la part qui t'est échue de ma part, dit l'Éternel, parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. C'est pourquoi je soulèverai tes pans sur ton visage, afin que ta honte apparaisse. J'ai vu vos adultères, vos hennissements, la débauche de votre prostitution et vos abominations sur les collines et dans les champs. Malheur à toi, Jérusalem! Ne te purifieras-tu donc pas? Quand cela arrivera-t-il enfin? Les gens choisissent le mal, ils choisissent d'apprendre ce qui est mauvais, mais nous changeons. Toi et moi, nous avions la même mentalité à un moment donné, mais nous avons changé. Psaume 119. Il est arrivé un moment où Dieu a jugé bon d'intervenir dans nos vies. Nous en parlerons un peu plus tard. Et il a commencé à nous enseigner ce qu'il voulait que nous apprenions, ce qu'il voulait que l'humanité apprenne depuis le tout début. Il a commencé à nous enseigner, non, les voies de ce monde sont mauvaises. Il existe des voies justes, il existe de bons chemins sur lesquels je veux que vous marchiez. Psaume 119, verset 4. Tu nous as ordonné de garder tes préceptes avec diligence. Oh! Si mes voies étaient orientées vers l'observance de tes statuts. David, bien sûr, était déjà bien avancé dans son processus de conversion à ce stade. Alors je ne serai pas confus quand j'observerai tous tes commandements. Je te louerai avec un cœur sincère quand j'aurai appris tes jugements justes. Je garderai tes statuts, oh, ne m'abandonne pas complètement. Il arrive un moment où nous désapprenons les voies de ce monde et où nous apprenons les jugements justes de Dieu. Cela ne s'arrête pas lorsque nous lisons notre premier livret ou nos premières poignées de livret, ni au bout de notre première année à l'Église, ni même au bout de notre première décennie à l'Église. Cela ne s'arrête jamais. Nous apprenons chaque jour les jugements justes de Dieu. Nous apprenons chaque jour à lui ressembler davantage. C'est là tout le sens de cette vie. Apprendre à ressembler davantage à notre Père. Et finalement, le monde entier apprendra ce qui est mal et ce qui est bien. C'est pour cela que nous sommes ici, pour nous former afin de leur enseigner. La dynamique entre l'apprentissage et l'enseignement est omniprésente. Elle imprègne l'intégralité du plan de Dieu. Ésaïe chapitre 2. Nous attendons ce moment avec impatience. Ésaïe chapitre 2. Le monde attend ce moment avec impatience. Il ne le sait tout simplement pas, il ne le comprend pas. Ésaïe chapitre 2, verset 1. La parole qu'Ésaïe, fils d'Amoz, a eue concernant Juda et Jérusalem. Et il arrivera, dans les derniers jours, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fermée au sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera au-dessus des collines, et que toutes les nations afflueront vers elle. Et de nombreux peuples iront et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous enseignera ses voies. C'est là l'élément transformateur, apprendre les voies de Dieu. Il nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et il jugera parmi les nations, et il réprimandera de nombreux peuples. Ils forgeront leurs épées en soc de charrue, et leurs lances en serpe. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ô maison de Jacob, venez, marchons à la lumière du Seigneur. Il y a une longue liste de choses que les gens n'apprendront plus. Il y a une longue liste de choses qu'ils apprendront. Ils se tourneront vers Dieu, et il leur enseignera ses voies, et nous comprenons que c'est par notre intermédiaire qu'il leur enseignera ses voies. C'est pourquoi nous traversons actuellement le processus de conversion. Nous apprenons qui écouter. Nous apprenons ce qu'il faut laisser entrer, ce qu'il faut rejeter. Nous apprenons cette leçon fondamentale que nos premiers parents n'ont pas apprise, à qui écouter et quelles sont les conséquences de ce choix. Il n'y a qu'un seul moyen de briser le cercle vicieux de ce qui se passe dans le monde, de briser le cercle vicieux de ce qui se passait dans nos vies avant notre conversion, de briser le cercle vicieux de ce qui continue de se passer dans nos vies jusqu'à ce que nous devenions véritablement des êtres divins. Et c'est d'apprendre que nous devons d'abord écouter la bonne source. Apprendre que nous devons d'abord écouter la bonne source. Deutéronome, chapitre 4. Deutéronome 4, verset 1. Écoute donc, dit Dieu. Ô Israël, aux lois et aux ordonnances que je vous enseigne, afin de les mettre en pratique, pour que vous viviez et que vous alliez posséder le pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous prescris, il est essentiel que vous appreniez ce que je vous enseigne, dit Dieu. Et vous n'en retrancherez rien. Je suis très précis, dit-il. Il y a un chemin très précis que vous devez suivre. N'ajoutez rien à ce que je dis. N'en retranchez rien. Afin que vous observiez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à cause de Baal-Péor, l'Éternel, votre Dieu, a exterminé du milieu de vous tous les hommes qui avaient suivi Baal-Péor. Mais vous qui êtes restés fidèles à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes tous enviés aujourd'hui. Voici, je vous ai enseigné, voilà encore ce mot, les lois et les ordonnances, comme le Seigneur mon Dieu me l'a ordonné, dit Moïse, bien sûr au nom de Dieu, afin que vous agissiez ainsi dans le pays dont vous allez prendre possession. Observez-les donc et mettez-les en pratique, car c'est là votre sagesse et votre intelligence. Tel était le résumé de la sagesse et de l'intelligence d'Israël. Écoutez ce que Dieu a cherché à leur enseigner. Voilà le résumé de notre sagesse et de notre intelligence. Apprendre ce que Dieu a à nous enseigner et agir en conséquence. C'est vraiment aussi simple que cela. Cela a toujours été aussi simple. C'est aussi simple que cela depuis le jardin. C'est aussi simple que cela aujourd'hui. Et c'est ainsi que le plan de Dieu s'accomplira pour chaque génération d'êtres humains qui ne vivra jamais. Telle est votre sagesse et votre intelligence aux yeux des nations, qui entendront toutes ces lois et diront, assurément, cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Car quelle nation est-il de si grande, qui est un Dieu si proche d'elle, comme l'est le Seigneur notre Dieu dans tout ce pourquoi nous l'invoquons? Et quelle nation est-elle si grande pour avoir des lois et des jugements aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Veille seulement sur toi-même et garde ton âme avec soin, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne s'éloignent de toi, qu'elles ne s'éloignent de ton cœur tous les jours de ta vie. Mais enseigne-les à tes fils et aux fils de tes fils. Alors, Israël, ne te contente pas de les garder dans ton esprit. Garde-les dans ton esprit, puis transmets ce que je dis à tes enfants. C'est un plan qui se perpétue de lui-même. C'est pourquoi l'Église de Dieu, à bien des égards, est générationnelle. Vous avez eu des parents qui ont enseigné à leurs enfants, et beaucoup d'entre eux sont assis aujourd'hui dans cette assemblée, partout dans le monde. Peut-être sont-ils même les petits-enfants de saints. Leurs parents ont accompli ce commandement. Ils ont appris, ils ont enseigné à leurs enfants, et leurs enfants ont enseigné aux leurs. Et vous vous êtes approchés et vous vous êtes tenus au pied de la montagne. La montagne était en feu jusqu'au milieu du ciel, dans les ténèbres, les nuages et une épaisse obscurité. Et le Seigneur vous a parlé du milieu du feu. Vous avez entendu la voix des paroles, mais vous n'avez vu aucune image, vous n'avez entendu qu'une voix. Et il vous a fait connaître son alliance, il vous a enseigné son alliance, qu'il vous a ordonné d'observer, à savoir les 10 commandements. Et il les a inscrits sur 2 tables de pierre. Et le Seigneur m'a ordonné à ce moment-là de vous enseigner. Il a désigné Moïse comme enseignant, les lois et les jugements afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Il y a aujourd'hui une véritable bataille dans le système éducatif au sujet de ce qu'on enseigne aux enfants, et de l'identité de leurs enseignants. Et c'est grave. On le voit bien à ce qu'on observe et lit dans l'actualité. Mais c'est un sujet extrêmement important aux yeux de Dieu. Qui enseigne à la génération future? Les enseignants du primaire, du collège, du lycée, les professeurs d'université, ils ne sont pas qualifiés pour enseigner aux enfants quoi que ce soit au-delà des trois röntgens, pour ainsi dire, et, bien sûr, d'autres matières. La lecture, l'écriture et le calcul. Ils peuvent très bien enseigner la physique. Mais ils ne peuvent pas enseigner ce qui est bien et ce qui est mal. Ils ne savent pas eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Ils n'ont pas été formés par Dieu comme vous et moi l'avons été. Comment pourraient-ils donc enseigner aux autres ce qui est bien et ce qui est mal? Ils peuvent transmettre des connaissances matérielles, mais rien de spirituel. Chapitre 5. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Écoute, ô Israël, les lois et les ordonnances que je vous annonce aujourd'hui, afin que vous les appreniez, que vous les observiez et que vous les mettiez en pratique. » Un ordre très précis. Nous devons les entendre pour les apprendre, pour les observer, les préserver, et pour les mettre en pratique. Un verset extraordinaire. Nous devons les écouter pour les apprendre, pour ensuite les préserver tout au long de notre vie, pour les mettre en pratique. Un verset qui résume le processus d'apprentissage d'une manière extraordinaire et concise. Or, cet apprentissage n'est pas réservé aux novices, aux nouveaux venus, aux nouveaux frères, aux nouveaux-nés, pour ainsi dire. L'apprentissage que Dieu a toujours voulu devait s'étendre sur toute une vie, quel que soit notre statut social, depuis combien de temps nous sommes dans l'Église, le nombre de cheveux gris que nous avons, l'époque à laquelle nous sommes nés, que ce soit à l'époque de l'Ancien Testament ou du Nouveau. Passons maintenant au chapitre 17 du Deutéronome. Chapitre 17. Avez-vous déjà entendu ce mot à la mode, apprenant tout au long de la vie? C'est une bonne expression. Nous devons être des apprenants tout au long de la vie. Chapitre 17, verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, que tu en prendras possession et que tu t'y seras établi, et que tu diras, « Je me donnerai un roi, à l'instar des nations qui m'entourent. » Dieu savait qu'il finirait par faire ce choix, et il a pris des dispositions à cet effet. Bien sûr, il conçoit son plan de telle manière que leur décision soit conforme à sa volonté. Tu établiras sur toi comme roi celui que le Seigneur ton Dieu choisira. Vous devez choisir celui que Dieu a choisi. Tu établiras sur toi comme roi un homme issu de tes frères, afin de ne pas établir sur toi un étranger, qui n'est pas ton frère. Mais il ne se multipliera pas de chevaux, vous devez établir à votre tête quelqu'un qui a vos intérêts à cœur, disait Dieu. Vous verrez que de nombreuses nations païennes comprennent parfaitement cela. Vous ne verrez jamais un président chinois en Inde, ni l'inverse. Ils comprennent. On choisit parmi son propre peuple. Mais il ne se multipliera pas de chevaux, et il ne fera pas retourner le peuple en Égypte pour multiplier les chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus jamais par ce chemin. Il ne se multipliera pas non plus de femmes, en d'autres termes, il doit écouter ce que j'ai dit. Afin que son cœur ne s'égare pas, et qu'il ne s'accumule pas en grande quantité de l'argent et de l'or. Et lorsqu'il s'assiera sur le trône de son royaume, il se rédigera un exemplaire de cette loi dans un livre. Quelle importance revêt ce que je lui ai enseigné avant qu'il ne devienne roi? Il doit s'en faire une copie dans un livre, à partir de ce qui se trouve devant les prêtres et les lévites, et ce livre sera avec lui, et il le lira tous les jours de sa vie. Sans exception. Afin qu'il puisse quoi? Afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer toutes les paroles de cette loi et les statuts, et à les mettre en pratique. Afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères, et qu'il ne s'écarte pas du commandement, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Chaque jour, le roi devait apprendre directement de Dieu, à partir de ses paroles. Eh bien, vous et moi, frères, nous nous formons pour devenir des dirigeants, des rois, des prêtres, et nous aussi, nous apprenons chaque jour de la parole de Dieu. Incroyable! Il nous enseigne chaque jour. C'est tout aussi efficace que s'il communiquait avec nous en face à face, verbalement. Nous disposons de ses paroles écrites. Ce serait peut-être plus saisissant, plus marquant, si nous les entendions de la bouche même de Dieu, mais nous avons l'assurance de pouvoir nous reporter chaque jour à ses paroles consignées par écrit. Nous pouvons apprendre directement du souverain suprême de l'univers qui souhaite nous établir comme souverains éternels de l'univers. Nous pouvons apprendre directement de lui chaque jour. C'est un privilège incroyable. Proverbe, chapitre 1. Lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous entendons sa voix. Nous entendons ses paroles, et elles nous transforment. Proverbe, chapitre 1, verset 5. Salomon explique pourquoi il a consigné les proverbes, pourquoi il a été inspiré à les consigner. Un homme sage écoutera et augmentera son savoir. L'apprentissage, voilà leur but. Et un homme intelligent parviendra à des conseils avisés. Chapitre 9, toujours dans les proverbes. Ce thème est présent tout au long du livre. Donne des instructions, verset 9, proverbe 9, 9, à un homme sage, et il deviendra encore plus sage. Enseigne un homme juste, et il augmentera son savoir. Le même sujet tout au long du livre. Chapitre 16, verset 21. Quelques pages plus loin. 16, 21. Celui qui a le cœur sage sera appelé prudent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. En d'autres termes, si vous avez un enseignant aux paroles douces, qui s'exprime bien, qui est réconfortant et encourageant, le genre de leader que vous et moi nous efforçons de devenir, cela enrichira votre savoir. Verset 23, quelques versets plus loin. Le cœur du sage enseigne sa bouche et ajoute la sagesse à ses lèvres. Il n'y a jamais eu de moment où l'on se soit dit, « Oh oui, j'ai beaucoup appris à l'époque, et je n'ai plus besoin d'apprendre quoi que ce soit. » Non. Cela ne fonctionne pas ainsi. Nous apprenons chaque jour selon la voix de Dieu. Ce n'est peut-être pas perceptible, mais au fil du temps, nous apprenons de plus en plus. Il n'y a rien de statique dans ce mode de vie. Nous nous efforçons constamment d'apprendre et de grandir. Maintenant, une autre manière, moins agréable, d'apprendre, c'est par la souffrance. La souffrance. Nous ne nous attarderons pas longtemps là-dessus. Une Pierre, chapitre 1. Nous avons lu plus tôt au sujet de ce « lait de la parole » que nous devons désirer, mais voici ce qu'explique Pierre au chapitre 1. C'était le chapitre 2, verset 3 ici. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 3 « Béni soit Dieu ». Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon ses grandes miséricordes, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, en vue d'un héritage incorruptible, d'un potentiel extraordinaire qui nous est offert, et sans tache, qui ne se flétrit pas. C'est permanent, réservé pour vous dans les cieux, prévu de longue date. Depuis bien plus longtemps que nous ne pouvons probablement l'imaginer ou le concevoir. Il nous a été réservé. Vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, en vue du salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Nous aspirons à cela, frères. Ce dont vous vous réjouissez grandement. Bien que vous soyez maintenant, si besoin est, pour un temps, accablé par de multiples épreuves. Dieu l'a voulu ainsi. Afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, même s'il est éprouvé par le feu. Pensez alors aux fourneaux dans lesquels il est plongé pour en éliminer les impuretés. Une chaleur incroyable, tout comme la chaleur des épreuves qui nous donne parfois l'impression de nous brûler. Afin qu'elle soit trouvée à la louange, à l'honneur et à la gloire lors de l'apparition de Jésus-Christ. Lui que vous n'avez pas vu, vous l'aimez. Et, bien que vous ne le voyiez pas maintenant, vous croyez en lui, et vous vous réjouissez d'une joie indicible et glorieuse. En recevant le but de votre foi, c'est-à-dire le salut de vos âmes. En d'autres termes, pendant un certain temps, nous devons endurer les épreuves afin de pouvoir recevoir le but de notre foi une fois que notre caractère aura été forgé par ces épreuves. Le salut de nos âmes. Nous devons regarder au-delà de ce que nous traversons actuellement et nous tourner vers la récompense. Jacques l'avait compris. L'apôtre Jacques l'avait compris lui aussi. Jacques, chapitre 1. C'est pourquoi il a dit au verset 2, ici, dans Jacques 1, verset 2, « Mes frères, considérez comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Jacques voyait au-delà de l'épreuve. Il voyait le fruit qu'elle produirait. Il voyait ce qu'elle lui enseignerait. Il voyait ce qu'il pourrait en tirer. Ce que vous et moi pouvons apprendre. Sachant ceci, que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et complet, ne manquant de rien. Ce sont ces épreuves. C'est cette douleur qui nous enseigne. C'est elle qui développe en nous une œuvre parfaite. Bien sûr, Paul l'avait compris lui aussi. Romains, chapitre 5. Romains, chapitre 5. Ce serait bien mieux si nous pouvions apprendre simplement en lisant la parole de Dieu, mais même si nous la lisions et la comprenions parfaitement, nous devrions tout de même endurer la douleur de l'épreuve pour forger notre caractère. Romains, chapitre 5, verset 1. Ainsi, justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons aussi d'avoir, par la foi, l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis, et nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations. Jacques a dit, « Réjouissez-vous dans les tribulations. Considérez comme une joie complète lorsque vous tombez dans diverses épreuves. » Paul va encore plus loin. Il dit que nous nous glorifions dans ces tribulations. Ouah. C'est difficile de trouver de la joie dans l'épreuve, mais ouah. Paul, lui, est allé encore plus loin. Nous nous glorifions en elle. Pourquoi? Et non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience. D'accord, je traverse cela, mais cela va me rendre plus fort. Ça va me rendre plus fort. Et la patience, l'expérience. Cela va m'endurcir. Cela va me rendre plus résistant. Cela va me rendre plus semblable à Dieu. Et l'expérience, l'espérance. Et l'espérance ne fait pas honte. Car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Avec le temps, on commence à se dire, « Bon, j'ai traversé beaucoup d'épreuves. Dieu m'a aidé à les surmonter. Quoi qu'il arrive, je n'abandonnerai pas. Je sais que Dieu a toujours été là pour moi par le passé. Il ne cessera pas d'être là pour moi, quoi qu'il arrive. » Et cela engendre une certaine expérience, une certaine patience, une certaine conviction que, cela aussi, cela passera. On s'en sortira. Tout ira bien. Ce n'est pas différent de ce que les saints ont affronté par le passé. Ils ont tenu bon, Alors moi aussi je peux le faire, pour le dire un peu plus clairement. Cela peut être particulièrement difficile quand on sort du monde pour la première fois. Hébreux, chapitre 10. Hébreux, chapitre 10. Cela peut être particulièrement difficile quand on sort du monde pour la première fois. On considère souvent cela dans le contexte du péché impardonnable. Mais Hébreux 10, verset 31, c'est une chose redoutable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais souvenez-vous des jours passés où, après avoir été éclairés, vous avez enduré une grande lutte d'affliction. Il y a actuellement beaucoup de nouveaux venus qui rejoignent l'Église de Dieu. Qu'ils soient des anciens membres de l'Église mondiale de Dieu qui se réactive, ou qu'ils viennent directement du monde. Et lorsqu'ils entrent dans l'Église de Dieu, ils sont souvent confrontés à de nombreuses épreuves. Que ce soit avec des membres de leur famille, avec leurs employeurs ou avec leurs amis. De grandes épreuves surviennent lorsque nous commençons à nous détourner du courant de ce monde. Qui es-tu? Qui es-tu devenu? C'est quoi, cette église de fous où tu as commencé à aller? Quoi? Tu ne viens pas avec moi à l'église dimanche? Tu n'es pas chrétien? Tu ne vas pas fêter Noël avec ta grand-mère? Qui es-tu? Vous pouvez entendre ces conversations se dérouler dans votre propre tête si vous fréquentez l'Église de Dieu depuis un certain temps. Mais il y a de grandes épreuves à surmonter lorsque nous trouvons nos marques après que Dieu nous a appelés. Mais si nous l'écoutons tout au long de ce processus, si nous avons confiance que ces tribulations, que ces épreuves produiront en nous la patience, l'expérience, l'espérance et, en fin de compte, la vie éternelle, cela rend les choses plus faciles. Le roi David a dit, « C'est une bonne chose que j'ai été affligé. » Il comprenait comment ces épreuves forgent le caractère. « C'est une bonne chose pour moi que j'ai été affligé. » Psaume 119, verset 71. Vous pouvez ouvrir votre Bible à ce passage si vous le souhaitez, mais nous allons simplement nous y attarder un instant. En fait, ouvrons-la à ce passage, car nous allons reprendre à partir du verset 67. Psaume 119. Christ n'a jamais péché, et pourtant nous lisons qu'il a appris par les souffrances qu'il a endurées. Il était ici pour apprendre, tout comme nous, car c'est lui qui a établi le modèle selon lequel nous devons mener notre vie. Il est venu comme le modèle par excellence. Ainsi, bien sûr, lui aussi a dû apprendre à travers les épreuves, les tribulations, des souffrances dépassant tout ce que nous pourrions imaginer dans notre vie quotidienne, et finalement à travers ces épreuves les plus douloureuses. Psaume 119, verset 66. David a dit, « Enseigne-moi le bon jugement et la connaissance. » Il savait de qui il voulait apprendre. Car j'ai cru en tes commandements. Avant d'être affligé, il savait que l'apprentissage ne suffisait pas. Parfois, la souffrance, comme on l'a entendu dire, devait déclencher le mécanisme d'apprentissage. Avant d'être affligé, je m'égarais, mais maintenant je garde ta parole. Il comprenait la place de la souffrance dans le processus d'apprentissage. Tu es bon et tu fais le bien. Enseigne-moi tes statuts. Les orgueilleux ont forgé un mensonge contre moi, mais je garderai tes préceptes de tout mon cœur. Leur cœur est gras comme de la graisse, mais je me réjouis de ta loi. Il m'est bon d'avoir été affligé, afin que j'apprenne tes statuts. Il savait que si tout avait été facile tout le temps, s'il avait obtenu tout ce qu'il voulait jour après jour, il serait devenu molle et complaisant et se serait détourné de Dieu. Il savait que Dieu, même s'il n'aime pas nous voir souffrir, nous envoie parfois des épreuves, qu'il s'agisse d'épreuves de santé, familiales, professionnelles, amicales, quelles qu'elles soient. Peut-être y a-t-il quelque chose que nous ne voulons pas faire mais que nous devrions faire, quelque chose que nous voulons faire mais que nous ne devrions pas faire. Peut-être s'agit-il d'une tentation qu'il a simplement permise. L'adversité est omniprésente. Il est bon que nous soyons éprouvés, afin que nous apprenions les statuts de Dieu. J'y ai fait allusion, mais alors que nous arrivons à la fin de cette réflexion, tournons-nous vers Hébreux 5. Hébreux 5, verset 2. En parlant du Christ, qui peut avoir de la compassion pour les ignorants. Christ est un grand prêtre, peut avoir de la compassion pour les ignorants et pour ceux qui s'égarent, car lui-même est aussi entouré d'infirmités. C'est pourquoi il devait offrir des sacrifices pour les péchés, tant pour le peuple que pour lui-même. Et personne ne s'attribue cet honneur de lui-même, si ce n'est celui qui est appelé par Dieu, comme le fut Aaron. De même, ce n'est pas Christ qui s'est glorifié lui-même pour devenir souverain sacrificateur, mais celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». En d'autres termes, Dieu le Père a choisi Christ pour être notre grand prêtre, et lui a permis d'être entouré de faiblesses afin qu'il puisse s'identifier à nous. De même, Christ ne s'est pas glorifié lui-même pour devenir grand prêtre, mais c'est celui qui lui a dit « Dieu, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Comme il le dit ailleurs, « Tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek, qui, durant les jours de sa vie mortelle, a présenté, avec de vives clameurs et des larmes, des prières et des supplications, Christ encore, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété, bien qu'il fût fils, bien qu'il fût éternel, bien qu'il eût, à un moment donné, compris toutes choses. Il a néanmoins appris l'obéissance, il a appris, tout comme nous devons apprendre. Par les souffrances qu'il a endurées, et, ayant été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, appelé par Dieu grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. L'apprentissage s'accompagne de souffrances. Parfois, c'est aussi simple que d'apprendre à ne pas toucher une cuisinière brûlante. Mais cela grave les leçons dans notre esprit. Je ne veux plus revivre cela. J'ai retenu la leçon. On ne m'y reprendra plus. Parfois, nous devons apprendre la même leçon encore et encore. C'est dans la nature humaine. Mais un homme juste peut tomber cette fois et se relever. Une femme juste peut trébucher à maintes reprises et se relever. Nous continuons simplement à apprendre, à grandir, à aller de l'avant. À terme, le monde entier sera rempli de la connaissance de la gloire du Seigneur. Les gens comprendront ce que vous et moi comprenons. Ils vivront comme vous et moi nous efforçons déjà de vivre aujourd'hui. Dernier point dont nous allons parler aujourd'hui. Dieu nous invite non seulement à apprendre de lui, mais aussi à apprendre à ses côtés. Cela devrait être profondément encourageant, profondément inspirant. Nous pensons souvent à Jean 6. Nous pouvons y jeter un bref coup d'œil. Nous pensons souvent à Jean 6 au sens le plus strict de notre appel. Jean 6, verset 43, Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Ces deux êtres s'impliquent intensément à nos côtés. Le Père nous attire vers ce grand prêtre. Ils veulent que nous réussissions. Ils veulent nous ressusciter au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés par Dieu. Nous apprenons directement de Dieu par sa parole, mais aussi par un dernier moyen que nous examinons ici. Tous seront enseignés par Dieu. Quiconque a entendu le Père et a appris de lui vient à moi. Partout où l'on regarde dans les Écritures, il est question d'apprentissage, d'enseignement, de ce dont on apprend et de ce qui nous enseigne. Matthieu 11. Matthieu 11. Un autre passage très familier dans le contexte de notre vocation, mais pas seulement dans ce contexte, il s'applique aussi à la vie quotidienne. Christ a dit au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Christ a dit qu'il nous invitait à apprendre de lui. Écoutez mes paroles. Acceptez mes conseils. Acceptez les conseils de Dieu. Nous avons en nous un Esprit Saint dont Dieu promet qu'il nous conduira dans toute la vérité, a dit Jean. Grâce à cet Esprit, grâce à la parole qui nous a été donnée, nous pouvons tout apprendre. Nous pouvons apprendre tout ce qui est nécessaire pour entrer dans la vie éternelle. Dernier passage biblique. Dernier passage biblique. 2 Timothée 3, verset 14. Voici la clé. Voici la clé. Verset 14. 2 Timothée 3, 14. Mais persévère dans ce que tu as appris, dans ce que j'ai appris, dans ce que nous avons appris, et dont nous avons reçu l'assurance. Sachant de qui tu les as apprises, et que dès ton enfance tu connais les saintes Écritures, qui ont le pouvoir de te rendre sage pour le salut par la foi en Jésus-Christ. Dieu veut non seulement que nous apprenions, mais que nous saisissions ce qu'il nous a donné, que nous continuions à retenir ces informations, à grandir dans cette connaissance, à l'approfondir, jusqu'à la vie éternelle. Frères et sœurs, vous et moi avons été créés pour apprendre. Faisons attention à ceux de qui nous apprenons. Apprenons les bonnes choses, puis poursuivons ce que nous apprenons jusqu'à l'éternité.